Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 6 juin 2025. Deuxième service numéro 350, Réchaud 490. Bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC, 88.3 à Sherbrooke et Dechies, 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Je le disais en petite ouverture, épisode 350 pour les gens de Québec, 490 au compteur, parce que mine de rien, la 300e est enregistrée à Orléans, en France, l'an dernier, à pareille date. Et voilà, on est déjà un an plus tard, 50 semaines d'émission plus tard également, moins les deux du temps des fêtes. Donc, l'année a passé, mon Dieu, c'est-tu passé des choses depuis un an? En fait, il s'est passé des choses depuis un an. Il s'est passé beaucoup de choses juste dans la dernière journée. Dans le dernier 24 heures. Et je suis content que la bisbille américaine soit apparue jeudi. Parce que si elle était apparue aujourd'hui pendant l'émission, j'aurais malheureusement manqué beaucoup de punch. Parce que c'est maintenant guerre ouverte entre Elon Musk et Donald Trump sur les réseaux sociaux, même par réseaux sociaux interposés. Parce que Elon accuse Trump de tous les maux sur Twitter. Et Donald, lui, privilégie, bien sûr, Truth Social, son propre réseau social. Qui, ironiquement, avait créé lorsqu'il avait été banni à l'époque de Twitter. Mais avant qu'Elon Musk vienne jouer les troubles fêtes sur la plateforme. Donc après, je cherchais des couples célèbres qui s'étaient séparés sur la place publique tout à l'heure. Donc après, Jennifer Lopez et Ben Affleck, début 2000. Après, Brad Pitt et Angelina Jolie, plus récemment. Et plus récemment, Ben Affleck et Jennifer Lopez qui vont encore se divorcer. C'est au tour d'Elon et de Trump qui lavent leur linge sale en famille, dis-je approximativement bien. Et les couteaux volent très, très bas. Ça, on peut dire ça comme ça. À la grosse base de tout ça. Elon s'est payé un président en mettant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de sa fortune personnelle dans la campagne électorale de Donald Trump. En promettant des montants d'argent si on s'enregistrait républicain et qu'on donnait à la cagnotte républicaine. Fait gagner $1 million avec la loto de Musk. Loto de Musk s'était répété pour faire élire des sénateurs ou des gouverneurs, je me souviens plus trop, récemment, ou des attorneys, des avocats de certains États, puis toutes ces loteries-là lui ont coûté de l'argent parce que finalement, le candidat endossé par Elon ou Trump ou J.D. Vance perdait systématiquement contre le démocrate. Donc ça coûtait des millions, mais finalement, il ne faisait pas gagner personne. Mais l'histoire ne dit pas d'ailleurs si les chèques ont été envoyés, mais bon, ça c'est une parenthèse. Ça, on est pendant la campagne électorale. Et pour le récompenser à l'inauguration, Donald Trump a créé un poste pour Elon Musk. Et comme c'est créé de toutes pièces, ben il n'avait pas besoin d'être élu ou rien. Il avait juste donné une job portant sans hasard le nom de la crypto-monnaie d'Elon Musk, ou en tout cas celle qu'il endosse, le Dogecoin. Donc, le Bureau d'efficacité gouvernementale, le DOGE, était créé. Et c'était prévu que le mandat d'Elon se termine à la fin du mois de mai. Il a remis une clé en plastique doré, d'ailleurs, les clés de la Maison-Blanche, lorsque Elon a terminé son contrat la semaine dernière. Avec son œil au beurre noir, jamais expliqué d'ailleurs, Elon Musk, pourquoi il y avait un œil au beurre noir dans le bureau ovale. Et probablement sur des grosses drogues encore, parce qu'on le voyait planer dans sa tête, à regarder un peu partout dans le vide. Comme ça lui a été reproché récemment également. Et quelle était la fonction du Doge? Parce que là, il était supposé s'en occuper, mais là, il s'en occupe plus. C'était prévu, c'est pas un congédiement, même si aujourd'hui, depuis ce temps-là, il dit qu'il lui a donné son 4%. Malheureusement, il n'a pas dit « you're fired » de Elon. « Elon, you're fired », mais c'est tout comme, à cette heure, parce que c'est un 140 jours qu'il devait faire, sauf erreur. Mais le Doge est supposé exister encore. L'efficacité du Doge jusqu'à maintenant est de zéro. Il se vante d'avoir réussi à faire tomber des contrats gouvernementaux et des trucs qui coûtaient cher, etc., etc. Mais dans les faits, c'est tous des trucs qui, anyway, étaient déjà venus à terme. Donc, il n'y avait pas de montant supplémentaire qui était de toute façon investi dans ces trucs-là. Fait qu'il se vantait d'avoir terminé des contrats, d'avoir terminé des ententes qui étaient déjà terminées. Fait que l'économie que le Doge a fait est de à peu près zéro. Ou en tout cas, il n'y a pas de réel tant que ça, économie, qui ont été faites. Donc, sous-performance, bien sûr, de la nouvelle gogosse. Et ça a coûté des employés plus que d'autres choses, à un point même où on se souviendra que du jour au lendemain, Elon Musk et ses stagiaires de 19, 20, 21, 22 ans avaient le contrôle sur l'entièreté des numéros d'assurance sociale des employés de l'État, avaient accès aux dossiers de tous ces employés-là, et il a fallu que des représentants démocrates et des juges à travers différents États interviennent pour dire là, c'est pas normal que des gens non élus avec aucune expérience de travail aient accès à autant d'informations confidentielles. Donc, c'est à peu près ça le Doge. C'est un cossin qui coûte cher, même s'ils sont là pour faire des économies. Et est arrivé le One Big Beautiful Bill Act, le beau et grand projet de loi de Donald Trump économique. Un document de 1116 pages qui essentiellement donne des congés de taxes aux ultra-riches et enlève des privilèges aux ultra-pauvres ou coupe dans les services aux ultra-pauvres tout en permettant aux riches de s'enrichir. Donc, la famille de Trump fait de l'argent. Le monde qui a voté pour lui n'en font pas. Essentiellement. Mais le point le plus important du Big Beautiful Bill Act, le One Big Beautiful Bill Act, c'est que il allait y avoir pour des centaines, en fait non, des milliers, c'est un 1000 milliards ou un 2000 milliards de dettes supplémentaires qui étaient rajoutées à la dette des États-Unis. Parce que, ben, on coupe dans les services. Oui, on économise dans certains trucs, mais on a des diminutions d'impôts. Fait qu'on a des rentrées d'argent qui ne se feront pas. Ce qui veut dire qu'on rajoute une dette aux États-Unis avec le One Big Beautiful Bill Act. Mais pour Elon, ben, c'était pas correct. Parce que lui-même a été engagé pour faire des coupures, même si il en a pas réellement fait. Mais tu sais, lui, techniquement, il était là pour améliorer le système électoral. Fait qu'évidemment, un projet de loi qui propose 2000 milliards de dettes supplémentaires aux Américains, de doubler finalement la dette américaine, bien c'est sûr qu'il n'est pas particulièrement enthousiaste avec ça. Il avait exprimé sa dissidence un peu, mais pas trop fort parce qu'il était encore dans les bonnes grâces du président, ben de Donald Trump à ce moment-là. président Trump, oui, quand même. Et ce qui a fait en sorte que le samedi où il était en entrevue, c'était à CBS, sauf erreur, lui, il s'attendait à ce qu'on parle de ses projets de fusée pour aller coloniser Mars, parce que là, Elon est revenu à ses anciennes amourettes de projets qui n'ont pas de bon sens. Mais l'animateur, bien sûr, a un des plus proches conseillers et gênants de Donald Trump à côté de lui. C'est sûr qu'il va lui dire des trucs comme « Ouais, mais là, les tarifs sur les produits, ça doit vous affecter, vous aussi, dans la construction de vos affaires, comme il y a beaucoup de pièces que vous devez importer de d'autres pays. » Et Elon, très mal à l'aise et pas du tout avec l'envie de jaser de tout ça, fait comme « Ouais, ben là... Je pensais qu'on allait parler d'autres choses. Là. Ça ne me tente pas bien, bien. » Parfait, le gars de CBS continue l'entrevue. Mais là, vous, Elon Musk, quand vous êtes rentré aux États-Unis, c'était grâce au visa d'étudiant. Je pense que vous êtes venu étudier aux États-Unis en premier, puis vous êtes resté après. Fait que grâce aux politiques migratoires, aux politiques d'immigration, que là, en ce moment, le président Trump veut tout enlever, puis je pense que vous avez beaucoup d'employés aussi qui bénéficient de ce programme-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, mais là, moi, je pensais qu'on allait parler d'aéronautique. Je pensais pas qu'on parlerait de tout ça. Là. Je parlerais pas contre mon président et nanana. Fait que tu sentais qu'il était un petit peu agacé, mais en même temps, c'est sûr que ça fait pas son affaire. Ça l'impacte directement, ces projets de loi aussi extravagants qu'ils peuvent être, de vouloir refermer les États-Unis le plus possible sur eux autres mêmes. Elon Musk est le premier à avoir besoin de ces subventions-là d'étudiants étrangers ou de ne pas avoir de tarifs sur une pièce qui va coûter 50 % plus cher parce que arbitrairement le pays d'où ça vient a décidé que ben, l'intelligence que Donald a consultée a décidé que ce pays-là avait 50 % et ou de droits réciproques qui ont été mis dans ce pays-là. Fait que c'est pas à l'avantage d'Elon Musk. Et c'est ce qui s'est produit cette semaine. Jeudi, très exactement. La chicane a pogné. Parce que, justement, Elon continuait à dire sur la place publique que le projet de loi du Big Beautiful Act n'était pas un bon projet de loi. Surtout dans son cas à lui, parce que techniquement, ça reste quand même un milliardaire qui veut faire de l'argent. Fait que lui, de dépenser plus d'argent, ben c'est pas rentable. Et à cause de ça, il l'a exprimé sur ses réseaux sociaux. Le Big Beautiful Act, c'est une abomination dégoûtante, avait écrit Elon Musk sur Twitter en enchaînant les pics et les accusations sur Internet. Et ça a culminé au point où Donald Trump lui-même était un peu déçu. Oui, c'est sûr, il était déçu, mais en disant que c'était grâce à lui si Elon avait un nom maintenant aux États-Unis, bien évidemment, tout est grâce à Donald Trump. Mais tu sais, le projet de loi budgétaire est le gros problème à la base de tout ça et le ton a monté extrêmement rapidement sur les réseaux sociaux. Parce que Elon Musk jugeait que c'était des dépenses injustifiées, que c'était de l'argent mal investi, que ça allait coûter trop cher, que c'était pas bon pour l'économie. Donald Trump, il est allé d'un simple « Ah, ben là, si tu veux qu'on fasse des coupures, si tu veux qu'on fasse de l'économie dans le budget américain, je pourrais couper toutes les subventions qu'on est supposé accorder à Tesla dans l'appareil gouvernemental. » Parce que oui, bien sûr, Elon en poste a réussi à faire signer que la flotte de véhicules présidentiels allait tout être devenue des Tesla. Ben on pourrait retirer ça, tu sais, ça nous ferait économiser une couple de millions. Je peux pas croire que même Joe Biden n'ait pas pensé à ça, disait un peu sur le ton de l'ironie Donald Trump. Mais ça, pour Elon Musk, ça l'a pas beaucoup impressionné, puis ça l'a pas non plus fait du bien, mettons. Donc là, c'est pour ça qu'il est allé, Elon Musk en réponse, si c'était pas de moi et de mon investissement, Donald Trump n'aurait pas gagné l'élection et le Sénat serait encore bleu. En voulant dire, Donald Trump est redevable d'avoir gagné l'élection grâce à moi. Et ça, Donald aime pas ça, se faire mettre dans la face qu'il est pas bon. Donc, ça a commencé à s'envenimer. Je commençais à me lasser d'Elon. J'ai demandé de partir. J'ai même enlevé l'obligation qui forçait tout le monde à acheter des véhicules électriques que personne ne voulait et dont il bénéficiait, ce qui est vrai aussi. Il a retiré les crédits d'impôt pour l'achat de véhicules électriques, y compris les Tesla. Il savait depuis des mois que j'allais le faire et il est juste devenu fou. Donc, pour Donald, c'est juste à cause qu'il n'y a plus ses subventions pour ces Tesla. Et ça a fait en sorte, qui plus est, que là, c'est de surcroît le président des États-Unis qui parle, que l'action de Tesla a perdu d'un seul coup 15 % à la bourse dans ce même 20 minutes-là où l'action de Tesla s'est effondrée parce que Donald Trump a attaqué directement et Tesla et Elon Musk. Et ça, Elon l'a pas pris non plus. Il a parlé à ce moment-là de se retirer ses projets de SpaceX pour la flotte de l'armée spatiale que Donald Trump voulait faire. Elon en rajoute, « Parfait, on n'a pas de besoin. Ben, on va t'enquêter, Elon Musk. T'es pas rentré aux États-Unis selon des termes normaux. T'es peut-être un alien illégal. On va t'enquêter, toi pis tes compagnies, puis on va te déporter. » On se dit, il n'y aura pas rien de pire après ça, parce que là, ben, c'est guerre ouverte. Elon Musk lâche en fin de soirée. Ben, dans ce cas-là, je vais vous dire la vérité, j'ai une bombe à vous lâcher. Si Donald Trump ne voulait pas dévoiler les Epstein Files, les papiers et documents de Epstein, c'est parce que son nom y est dedans. Et ça, c'est une réelle bombe. Parce que là, de dire que dans les ceux qui ont bénéficié de Jeffrey Epstein et de ses services de rencontrer des mineurs sur des îles secrètes, ben de rajouter Donald Trump à cette liste-là, ça fait pas très bonne figure. Donc là, évidemment, ben là, on est dans le grand conflit entre les deux. Et évidemment, ce sont des allégations. Est-ce que Elon Musk a lâché ça pour juste picosser? Ou Elon Musk lâche ça parce qu'il a vu, lui, les Epstein Files? Ce qui ne serait pas impossible, parce qu'il y a eu un dévoilement de ces papiers-là, de cette liste-là, qui fait énormément peur à beaucoup de gens, qui avait été remise à des YouTubers pro-Trump, mais on n'avait pas remis l'entièreté des documents. On avait remis des papiers, somme toute, non incriminants, mais évidemment, la liste de gens qui sont allés sur les îles d'Epstein pour profiter des services, entre guillemets, qu'ils offraient sur ces îles-là, encore une fois, de rencontrer des mineurs, ben cette liste-là n'était pas là. Est-ce que c'est parce que Donald Trump est dessus? Il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé de Donald Trump et de Epstein. C'est sûr que les théories du complot vont dire que oui. Autant favorable que non. Mais dans ce cas-ci, Elon Musk qui dit ça, est-ce que c'est juste pour nuire à Donald Trump? Mais là, les couteaux volent tellement bas que c'est peut-être juste ça. Reste quand même que ce divorce-là sur la place publique entre Elon Musk et Donald Trump évidemment, allait se produire. À quel point ça allait être aussi fort, ça, c'était impossible à prévoir. Mais dans l'idée où ces deux-là veulent avoir le dernier mot, c'est ce que ça donne. Est-ce que Elon Musk va réellement être enquêté par l'appareil gouvernemental, va être obligé de rembourser des contrats et où va être expulsé des États-Unis? C'est peut-être des paroles lancées en l'air. Mais Donald Trump, il est bon pour lancer des paroles en l'air puis les faire quand même. Fait que, à quel point c'est faisable de mettre Elon Musk dehors des États-Unis, je ne sais pas. Mais ça reste quand même que la chicane entre ces deux personnes-là qui, jusqu'à la semaine passée, se toléraient et aujourd'hui, peut-être, est-ce qu'ils vont s'être parlé par voie interposée, ou en tout cas, il va peut-être ça va s'arranger. Mais d'avoir fait ça sur la place publique, c'est tout dire. Donc, qu'en adviendra-t-il? Quelles seront les réelles conséquences ou sur Donald Trump ou sur Elon Musk? on le sait pas. De toute façon, Elon Musk, son nom est complètement brûlé de s'être fait associé à Donald Trump autant. Puis quand même que ça serait une comédie, parce qu'il y a des gens qui ont sorti cette théorie-là, que c'était parce que Elon Musk voulait rétablir son nom, parce que maintenant, il tient tête à Donald Trump et qu'il va redevenir dans les bonnes grâces de ceux qui n'aiment pas Donald Trump. Évidemment que non. On l'a vu, Elon Musk, qui l'a fait. T'sais, le salut nazi, pas nazi, tu peux pas effacer ça, qu'il soit avec ou sans Trump, c'est difficile de revenir là-dessus. Fait qu'essentiellement, le bordel est pogné. Et qu'est-ce qui en arrivera? Qu'est-ce qu'on verra par la suite? Seul le temps nous le dira. Mais la chicane est réellement pognée entre ces deux-là. Courte pause, au retour, la suite du deuxième service. Sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Lou Adrian Cassidy, qu'on vient d'entendre de l'un des deux albums qu'elle a sorti cette année, Journal d'un loup-garou, qui était le premier en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Très rapidement, bon, ce que j'avais oublié, c'est dans les nombreux messages que Elon a envoyés, notamment, et demandait à son public cible, c'est-à-dire les fanatiques de lui, si l'idée de partir un autre parti politique, d'avoir une troisième option, donc pour enlever du pointage à Donald Trump, serait une bonne idée. Et bien sûr, ben, les fanatiques de Elon sur Twitter ont répondu oui à 80%, même si peut-être que là-dedans, il n'y en a pas la moitié qui sont aux États-Unis. Donc, c'est à peu près ça. C'est l'enveniment de vouloir un peu tiquer l'un et l'autre tout le long de la journée. Ce que ça faisait, ben c'est ça. C'est pour Elon, c'est 14% de moins pour Tesla uniquement, parce que les autres compagnies aussi ont perdu. Tesla a perdu des dizaines de milliards de dollars américains en capitalisation boursière avec un moins 14. Trump Media, l'équivalent de Donald, avec son indice boursier à lui, lui a perdu 8%. Et selon le site économique Forbes, Elon seulement, donc la personne dans son évaluation boursière aurait perdu 27 milliards dans la journée de seulement, uniquement hier, jeudi au moment d'enregistrer, parce qu'il y a eu toutes ces altercations-là avec Donald Trump. Bon, voilà. En plus d'avoir dit qu'il devait l'élection à son argent, parce qu'il aurait mis jusqu'à 380 millions de dollars dans la campagne de Donald Trump, qui disait que le Sénat avait été remporté grâce à lui. Rien n'annonçait ça, tu sais, à un point où Donald Trump avait fait dans la cour de la Maison-Blanche, sa salle de vente, avait fait un showroom de Tesla qui appelait Tesla, d'ailleurs, et qui avait montré que c'était des beaux... beautiful car, best car, Tesla, great car, en montrant les tarifs sur un petit carton. Puis, tu sais, il faisait son vendeur de char dans le parking, ben même pas dans le parking, dans le jardin de la Maison-Blanche l'été passé avec en essayant de conduire. Il avait-tu conduit? Je me souviens pas, mais en tout cas. C'est ça, il y avait... Et, ou justement, ben, cette question-là de si je partais mon propre parti, embarqueriez-vous? De là a découlé, ben parfait, on va t'enlever nos contrats qu'on a avec Tesla au gouvernement. Parfait, ben moi, je vais retirer mon vaisseau qui permet à la NASA de transporter des astronautes, le Dragon, qu'ils appellent. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'en ce moment, oui, il y a des disciples de Donald Trump, mais il y en a quand même beaucoup qui sont des disciples d'Elon Musk aussi. Fait qu'est-ce que réellement Elon Musk pourrait jouer une part importante si à la prochaine élection, il se lançait avec un troisième parti aux États-Unis ou lui-même à la présidence pour être contre J.D. Vance ou encore Donald Trump s'est réussi à se faire proposer pour un troisième mandat? Est-ce que réellement Elon Musk aurait le pouvoir de l'emporter? Pas nécessairement, parce que ça ferait à ce moment-là une division des votes entre républicains et le parti d'Elon Musk. Donc, ça serait au détriment de la formation rouge, ce qui donnerait les coups d'effrange pour les démocrates de l'emporter beaucoup plus facilement. Parce que si on divise une des deux options, et de toute façon, Elon Musk n'est pas particulièrement apprécié dans le clan démocrate pas nécessairement uniquement parce qu'il est associé à Donald Trump, mais parce que ses déclarations des dernières années sur l'entièreté de la vie sociale en général ne sont plus en concordance avec les démocrates, parce que mais en fait, je dis ça, puis à quel point Elon Musk était démocrate avant de virer bout pour Donald Trump, parce que j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus Donald Trump qui est républicain. Quoique, c'est une supposition, mais c'est ça, Elon Musk était un environnementaliste, idéaliste, qui voulait améliorer la planète. Aujourd'hui, ben c'est... Il l'a peut-être encore, mais il a, c'est ça, fait beaucoup de mauvaises décisions depuis qu'il est dans l'entourage de Trump, pas juste par les signes qu'il fait, mais par les décisions en général qu'il a prises. Les décisions, une décision, les décisions qu'il a prises. Mais ça reste quand même... Sa, ben en tout cas, son prestige a pâli énormément dans les dernières années. Donc, on n'est plus à l'espèce de, d'entrepreneur, rêveur, philanthropiste, tu sais, que... bonne personne qu'on pensait qu'il était à une certaine époque, ou qu'il a peut-être déjà été, mais que d'avoir décidé de virer, c'est ça, d'aller avec la droite, même l'extrême droite dans certains pays, où il donnait son appui à des partis comme la droite allemande, ou italienne plutôt, dans des élections, qui s'est ingéré dans des élections de d'autres pays pour apporter son soutien à certains candidats de droite ou d'extrême droite. Fait que ça va être dur de revenir de ça. Fait que même s'il se chicane sur la place publique avec Donald Trump, ça fera pas en sorte que soudainement, il va se faire aimer pour avoir prétendu que Donald Trump est peut-être un pédophile. Mais encore là, c'est des prétentions, parce que cette liste-là d'Epstein, probablement qu'elle ne sera jamais réellement mise sur la place publique. Ça, c'est à peu près impossible. Mais ça reste quand même des accusations graves. Si ce n'est pas des poursuites que ça va se terminer au tribunal pour diffamation, des choses comme ça, ce qui ne serait pas complètement impossible non plus de la part de Donald Trump. Mais voilà, donc c'est ça. Je le répéterai jamais assez, mais le bordel est pris aux États-Unis. Et ben c'est ça, c'est eux qui sont pognés avec ça. Ils ont voulu voter pour ça. Ben, c'est ce que ça donne. Donc, faites courte pause. Au retour, ben, on sera beaucoup plus proche. C'était un gros breaking news hier. Fait que peu importe ce qui se disait hier dans les nouvelles, il y a eu une petite éclipse médiatique, disons ça comme ça. Mais il s'est dit des choses quand même au Québec, au Canada. Cette semaine, notamment, ben, c'était la première grosse semaine complète pour Mark Carney en chambre. Donc, il était enfin premier ministre. Répondait aux questions, notamment des adversaires. Donc, on parlera politique canadienne-québécoise sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Au retour, vous écoutez la 350e du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. On est de retour sur les ondes de CFAQ 88.3 de Chiz 94.3, Chose sauvage, faux départ qu'on vient d'entendre en musique. Ben oui, il faut se souvenir que le roi est venu nous voir pour faire la lecture du discours du trône la semaine passée, donc pour donner les grands pans sur quoi Mark Carney et son équipe voulaient travailler dans les prochains mois pour le bien des Canadiens et la culture québécoise et tout ça, et tout ça. Voilà, donc c'est à ça que le roi a servi cette journée-là. Il est reparti littéralement 5 minutes après, de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, le discours du trône devait être adopté du côté de la Chambre à Ottawa. Le NPD a fait un peu peur cette semaine en disant qu'il le refuserait, mais... De toute façon, ils sont tellement rendus peu que c'est pas ça qui fait une différence. On avait besoin d'avoir au minimum... l'accord du Bloc, si c'est pas des conservateurs pour le discours du trône. Et finalement, ben, ça a été adopté malgré tout. Donc, mercredi soir, la Chambre des communes a été adoptée, le discours du trône livré par le trône lui-même. Nous avons un mandat clair pour réaliser les priorités des Canadiens et bâtir un Canada fort ou bâtir Canada maison, comme ça avait été dit en campagne électorale. C'est ce que nous allons faire, avait annoncé Steve McKinnon. Leader parlementaire du gouvernement de Mark Carney. Plus tôt dans la journée, les libéraux n'avaient exprimé aucune crainte quant à un premier vote de confiance auquel ils devaient faire face, parce que c'est pas vrai qu'on allait retourner en élection à partir de mercredi non plus. Nous croyons que le discours du trône va être entériné, avait dit M. McKinnon. Le député de Gatineau n'avait pas voulu préciser quel parti l'appuierait, prétextant que ce n'était pas à lui de parler au nom des autres partis, ce qui n'est pas complètement faux non plus. Bien que nous soyons un parlement minoritaire, nous croyons que nous avons un mandat pour livrer quant à notre programme. Le NPD avait confirmé que les 7 députés de sa formation... C'est tellement triste pour eux autres. Ils étaient 22, 20, même vingtaine, sûr. Confirmé que les 7 députés du NPD allaient voter contre. Ils avaient déploré un discours presque conservateur qui ne correspond pas aux besoins des travailleurs et travailleuses de leur famille. Ce discours du trône ne contient rien pour améliorer les soins de santé. Rien pour du logement hors marché non spéculatif, avait dit Alexandre Boulris, porte-parole pour le Québec. dans son discours du trône, le gouvernement met fortement l'accent sur le renforcement de l'économie canadienne en accélérant les projets jugés d'intérêt national. Donc, ça a passé, essentiellement. C'est ça qui est le bout important. Donc, non, il n'y aura pas de nouvelle élection qui va être réclamée parce qu'on fait tomber le gouvernement. Du côté de la presse, bon, c'est ce qu'on dit. Le discours du trône est officiellement entériné. Il a été adopté sur division, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de vote enregistré et qu'il n'a pas besoin d'être voté au Sénat. L'enjeu était grand puisque le vote sur le discours était un vote de confiance. Ainsi, en cas de défaite, le gouvernement aurait pu être contraint de déclencher des élections puisqu'il est minoritaire. Le chef... c'est encore l'affaire du NPD. Fait que, c'est ça. Les autres l'ont entériné, mais c'est ça. Sans nécessairement non plus dire haut et fort, oui, on est full d'accord. Fait que, voilà. Facilement adopté, c'est ça. Il y avait... Oui, certainement, certains trucs qui avaient été... qui avait été entériné par le Parti conservateur, de l'aveu même de certains députés conservateurs. Il y avait certaines idées qui ressemblaient et ou qui étaient telles quelles du programme conservateur. Donc, c'était Pierre Paulus, je pense, en entrevue, qui disait lui-même, « Écoutez, il y a des idées qu'on voulait mettre de l'avant, fait que c'est sûr que ça serait difficile de voter contre ça. Donc, c'est sûr que ça a fait en sorte que... ça a passé peut-être un petit peu plus facilement, mais c'est sûr que bon, ce discours-là du trône a été a été entériné sans qu'on soit non plus obligé de forcer le monde à voter pour. Chose qui pourrait arriver peut-être au Québec, des votes forcés, notamment sur certains conflits qui existent en ce moment. Et puis, on apprenait ce matin pour le Québec, à tout le moins, que déjà que c'est compliqué d'avoir accès à de l'information, ça risque de l'être encore un peu plus. Puisque Jean-François Roberge a confirmé ce matin qu'il allait avoir 20 postes d'abolis supplémentaires à la commission d'accès à l'information. Donc, régulièrement, quand les journalistes font des demandes pour avoir de la clarté, des précisions, pour avoir des petits compléments d'informations dans les trucs qu'ils écrivent, des fois, ils reçoivent des grandes pages blanches caviardées, donc avec des grandes marques noires sur 98% du contenu des textes, ce qui fait bien sûr en sorte que accès à l'information, oui, mais pas tellement. Donc, déjà qu'il y avait des délais qui étaient plus ou moins respectés. Mais là, dans ce cas-ci, on veut couper 20% de l'effectif de la commission d'accès à l'information. Le ministre responsable, Jean-François Roberge, a confirmé vendredi l'abolition d'une vingtaine de postes. Ça fait partie de l'opération qu'on fait en ce moment pour réduire les effectifs dans la fonction publique et diminuer la bureaucratie. Il est à quelques lettres de dire diminuer la démocratie, mais bon, c'est une parenthèse. Pour ce qui est de la commission d'accès à l'information, ce sont des postes qui ne sont pas comblés. Il faut faire attention. Donc, il se défend en disant que c'était des postes qui étaient déjà ouverts ou déjà en recherche d'être remplacés, mais que, ou des départs à la retraite, probablement que les postes ne seront pas renouvelés. Réponse facile. Selon Jean-François Roberge, tous les postes qui seront abolis de la commission d'accès à l'information sont des postes qui étaient ouverts depuis des semaines, voire des mois, et qui n'étaient pas pourvus. On ne réduit pas à ce moment-là les effectifs. Il n'y aura pas moins de personnes pour répondre aux demandes la semaine prochaine que, par exemple, la semaine passée. Ça reste à prouver. Abolir des postes qui ne sont pas comblés, c'est bien différent que de sabrer dans les forces de travail d'une équipe qui, jour après jour, répond aux demandes d'accès à l'information. Bla, bla, bla. Questionné par l'animateur Patrick Masbourrière à la ICI Première à Montréal sur la pertinence de couper dans les effectifs de la commission d'accès à l'information à l'heure où des scandales comme celui de Saclic font la manchette, le ministre a rappelé la nécessité de respecter les paramètres budgétaires. Parce que là, le budget est important à être suivi. On peut garrocher 10 milliards dans le fleuve pour faire un bitube, mais les 20 employés qui, eux, sont supposés aider, eux, on n'a pas besoin de les remplacer parce que ça coûte trop cher, 20 employés. C'est une bonne idée de revenir tranquillement à l'équipe budgétaire. On ne peut pas, chaque année, dépenser plus d'argent qu'on en a. Voilà. L'équilibre budgétaire à géométrie variable. Investir autant d'argent d'une compagnie qui fait faillite en Suède avec Nordvolt, puis de dire que ça va révolutionner le Québec et d'arrêter d'en parler du tout au tout parce que ça va extrêmement mal et que son ministre vedette a claqué la porte. Oui, oui, la CAQ et les réductions de budget. Voilà. Pour maintenir l'efficacité de la commission sans augmenter les effectifs, Roberge mise sur une modernisation des opérations. Bon, on va demander à l'IA. Hein? Une meilleure façon de travailler, c'est une informatisation des demandes. Là, de mettre les trucs par informatique, ça leur a pas réussi jusqu'à date. Fait que je me vanterai pas de ça. Moins d'effectifs nécessaires pour faire plus, c'est ce qu'on appelle aussi de la diffusion proactive. Oh, y'est-tu cute? Rappelons qu'au Québec, les demandes d'accès à l'information excèdent fréquemment les délais prescrits par la loi selon une étude publiée en 2022. Selon le rapport qui collige les demandes fournies par 33 organismes, soit des ministères, des municipalités, des hôpitaux, des services de police, entre 2018 et 2021, le délai de réponse moyenne à une demande d'accès à l'information était de 24 jours. À compter de la date de réception d'une demande, un organisme dispose normalement de 20 jours civils. 5, 10, 15, 20, fait que d'un mois ouvrable. Mais là, on est rendu à 4 semaines avec les fins de semaine ouvrables. Sans les fins de semaine, donc on est rendu à un mois et demi quasiment. Un délai supplémentaire de 10 jours civils maximum est possible, auquel cas l'organisme doit aviser le demandeur par écrit. Et cet accès à l'information qui accuse des retards importants sur la commission de l'information pour envoyer des documents avec des grandes barres noires dedans. C'est ça, c'est la commission, il dresse 25 constats. Le premier va comme suit, le délai de traitement moyen de demande d'accès à l'information hors pandémie est de 24 jours, ce qui est plus que ce que la loi a prévu. Il ne s'agit pas d'un délai supplémentaire automatique prévu à la commission qui, pour le portrait, émerge cette étude de quoi inquiéter. Le ministère de l'Éducation, surprise, et de l'enseignement supérieur est le pire à fournir ses demandes le plus en retard possible. 80% des demandes d'accès ont été traitées hors des délais de 20 jours prescrits. Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Est de l'île de Montréal et l'Hôpital général juif sont les deux autres pires organismes qui ne sont pas capables d'envoyer leurs papiers à temps pour répondre aux demandes d'accès à l'information. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes, si c'est le cas. Et on fait une courte pause au retour pour la conclusion de ce 350e deuxième service sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz. Le couleur sur les ondes de CFAX, sur les ondes de Chiz, en musique Train de minuit, tiré du dernier album. Non, l'album avant ça, Concorde, fait que pendant la pandémie. Surprise cette semaine. Ben surprise, pas tant que ça, mais surprise quand même. Nintendo a décidé de lancer la Switch 2. Donc, a décidé de ressortir sa console, mais avec des meilleurs graphiques. En tout cas, des meilleurs graphiques pour du Nintendo. Un écran plus gros, des manettes plus grosses. Fait que ceux qui ont des grandes mains seront peut-être un peu plus contents que de la Switch originale. Et aura quelques titres exclusifs en commençant l'aventure. Mais le plus gros des jeux vont bien sûr sortir à Noël. Beaucoup de précommandes, même qu'il y a eu beaucoup de craintes lorsque la Switch 2 a été annoncée, est-ce que ça sera capable de sortir facilement des magasins où il y aura des ruptures de stock. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de rupture de stock annoncée, au sens où Nintendo avait prévu le coût et a surtout mis le coût qu'il faut mettre pour se procurer une nouvelle console de la Switch, parce que oui, elle est sensiblement la même que la première, donc un peu comme la Wii et la Wii U. La Switch et la Switch 2 vont se ressembler à certains titres, mais sur les prix, par contre, ça ne se ressemblera pas entre la Wii et la Switch, notamment parce que la Nintendo Switch 2 se vend au-dessus de 500$ canadiens, et c'est pas uniquement à cause des tarifs douaniers, mais c'est parce qu'elle est vraiment plus cher. 500$ c'est aux États-Unis. En fait, avec le taux de change au Canada, 629$ pour la Switch de base, pas de jeu. 699,99$ pour la Switch avec Mario Kart à l'intérieur. Ce qui est important à préciser, c'est qu'il y a un rabais lorsqu'on la prend avec avec Mario Kart dedans, parce que Mario Kart exclu se vend 110$ canadiens. Le jeu de Donkey Kong se vend 100$, et voilà, c'est des prix qui sont complètement fous, surtout pour Nintendo, mais ça fera jurisprudence-ish, au sens où maintenant que Nintendo se permet de vendre des jeux au-dessus de 100$, qu'il n'y ait pas de bonus à l'intérieur non plus, 109,99$ pour le Mario Kart à part, donc seulement 70$ lorsqu'il est inclus dans la console, mais bien sûr un code téléchargeable et non pas une copie physique, mais à 50$ la copie physique de plus, ça reste quand même considérable. Donc, avec les taxes, 50$. Mais voilà, parce que c'est ça, c'est 109 avant taxes pour un jeu uniquement. Oui, il y a peut-être une coupe d'affaires à faire, mais il y a des gens qui l'ont déjà terminé. Ils ont déjà terminé la cassette de Mario Kart. Fac, la cassette, ça paraît que je suis vieux et qu'il y avait des cassettes dans le temps. Mais tout ça pour dire que la Nintendo Switch 2, c'est dans le but de recommencer la vente de consoles, parce qu'évidemment, à ce prix-là, en plus, c'est sûr que Nintendo essaie d'aller rechercher de l'argent, pas parce que la Switch n'a pas été un bon vendeur, elle a été extrêmement bon vendeur, mais c'est juste que tu peux pas acheter une Switch à toutes les années non plus. Il y a quelques personnes qui sont très riches et qui vont acheter plusieurs Nintendo Switch dans leur vie parce qu'ils vont vouloir avoir eu la Switch 1, ils vont vouloir avoir eu la Switch portative Lite, ils vont vouloir avoir eu la Switch OLED pour le petit écran qui est encore plus lumineux que le premier. Mais la Nintendo Switch 2, elle aura des performances que la Nintendo Switch 1 ne faisait pas. Donc certains jeux, et c'est déjà commencé, les comparatifs, par exemple, pour ouvrir un jeu disponible sur la Nintendo Switch 1 versus la 2, bien évidemment, sur la 2, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus en haute qualité. Par exemple, il y a des combats à Super Smash qui ne se réalisent pas dans le 1 parce que ça demande trop de ressources. Ben, dans le 2, ça se passe comme si de rien n'était. Donc, techniquement, quand tu joues en ligne, ben, il n'y a plus autant, ben, ça dépend encore des connexions Internet, mais il n'y a plus autant de lag, il n'y a plus autant de ralenti sur les jeux maintenant dans la nouvelle Switch, ce qui est bon pour eux. Est-ce que réellement ça va faire en sorte que les ventes vont augmenter des produits de la Nintendo Switch? On le rappelle, 629 avant taxe, pas de jeu, 700 avant taxe, pas de jeu, avec un jeu installé dedans. Donc, c'est considérable. C'est le prix d'un ordinateur, c'est le prix d'un Xbox, c'est le prix d'une PlayStation, mais dans ce cas-ci, elle va à côté, à tout le moins, la PS4, même si on est rendu à la PS5. Fait que déjà là, ça permet à certains jeux qui étaient disponibles sur la Nintendo Switch, mais avec des qualités graphiques moindres, de remonter la qualité de certains jeux. Je pense à Harry Potter Legacy, je pense à Cyberpunk, qui avait été une catastrophe lorsque le jeu est sorti, mais qu'aujourd'hui, se peut un peu plus. Grand Theft Auto va probablement se pouvoir sur la Nintendo Switch 2, même si elle ne sera pas à pleine capacité, mais elle sera au moins à qualité PS4, Xbox One, comme lorsque GTA V, non, il est sorti sur... il est sorti sur PS3. Il me semble qu'il est sur PS3 aussi, mais en tout cas, qui était amélioré sur PS4, mais que là, sur la PS5, bien évidemment, c'est un autre game. Fait que le nouveau GTA va être possible sur la Nintendo Switch, chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années, que Nintendo fasse du Grand Theft Auto dans ses titres de sortie. Mais c'est ça, certains jeux, Fortnite, des jeux de course, des jeux en ligne, sont déjà tous disponibles en téléchargement. Des jeux de la Nintendo Switch 1 qui s'en vont sur la 2 avec des qualités améliorées. Ne serait-ce que Pokémon qui maintenant voit plus large et que le moulin n'est pas saccadé et que les pales du moulin vont être capables d'être un peu plus fluides qu'elles ne l'étaient. Donc, oui, il y a un enthousiasme. Tu sais, il y a énormément de gens qui vont jouer sur Internet et qui vont mettre des vidéos en ligne pour qu'on les regarde jouer à des jeux sur Internet. Ça, il va y en avoir énormément toute la fin de semaine parce qu'évidemment, la Nintendo Switch vient de sortir. C'est le gros, la grosse sortie. Mais est-ce que ça va faire en sorte que tout le monde va vouloir se procurer? Pas nécessairement. Je suis le premier qui va peut-être attendre au moins un an parce que pour l'instant, il n'y a pas encore assez de jeux. Il n'y a pas encore assez de titres qu'à part Mario Kart qui fait comme « Ah oui, je veux vraiment jouer à ce jeu tout de suite. » Donc, à venir pour la Nintendo Switch, ma Switch 1 originale de l'an 2 et marche encore quand même bien. Fait que ça sera ça pour l'instant pour ma part parce que 700$, c'est considérable quand même. C'est là que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette 350e fois à Québec, pour ce 490e show ici à Sherbrooke. C'est la 500e à la fin de l'été pour le réchaud. Restez bien branchés sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la prochaine. Salut.